Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonjour à tous nos auditeurs d'Aligre FM, bienvenue, il est 16h, nous sommes en direct et nous sommes le 1er juillet 2023, voilà, pour qui cherchait la preuve du direct. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Nathalie Perrin.
Voilà, bonjour Stéphanie Ronchevski-Degore, alors soyons professionnels, disons les noms des présentatrices. Bon, ben, ravie de se revoir, j'étais pas là la dernière fois, c'est Michel et toi qui avais fait l'émission.
Nous rappelons tu que... nous as manqué.
Voilà, merci. Alors nous sommes à Philosophie au présent, il y a un partenariat déjà depuis quelques années, depuis 5 ans avec le Collège international de philosophie. Voilà, moi je suis ancienne directrice de programme, mais au conseil scientifique du Collège international de philosophie. Et Stéphanie, tu es directrice de programme. Voilà, et tu mènes un séminaire de recherche. On pourrait peut-être en reparler de ce séminaire de recherche. Voilà, oui. Tu travailles autour des questions.
La mesure de l'agitation.
Voilà, tout à fait. Et c'est absolument cohérent avec l'invité que tu as choisi, puisque voilà, on est 3 présentateurs. Michele Saporiti est en Italie, mais il nous écoute. Voilà, et les 3 présentateurs choisissent toujours des invités, hein. C'est un peu comme ça qu'on se coordonne et aujourd'hui nous avons le plaisir, l'immense plaisir de recevoir Angélique Delray. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Bonjour, alors on a, voilà Stéphanie, on a pris, enfin c'est toi qui avais choisi ce titre de l'émission, l'évaluation nous rend-elle vraiment plus performants? Voilà, et on avait déjà eu l'occasion de travailler avec Angélique au sein du Collège international de philosophie dans un séminaire éducation. Et Angélique, tu étais venue parler, ça avait été absolument formidable. Et on s'est dit, il faut que les auditeurs d'Aligre connaissent un petit peu cette chercheur. Bon, alors petite présentation, Angélique. Voilà, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises comme la plupart des journalistes. Mais bon, moi je ne suis pas journaliste, alors j'ai le droit aux bêtises. Bon, tu as écrit plusieurs... alors tu es aujourd'hui Prague, hein, c'est ça, à l'UPEC, oui. À l'INSP du 93. On rappelle un peu ce que c'est que les INSP.
Alors ce sont les anciennes écoles normales qui se sont converties en IUFM à partir de 1989. Et qui ont intégré l'université progressivement. Donc aujourd'hui, ça s'appelle INSPE, ça a changé de nom plusieurs fois.
Voilà, et tu es dans la formation d'enseignants.
Voilà, donc on forme des enseignants à un master qu'on appelle MEF, métier de l'éducation.
Oui.
Et là, moi, je travaille pour le premier degré.
D'accord. Et tu es en thèse, tu es en train de faire une thèse,
oui.
Alors
de
doctorat.
Je termine une thèse de doctorat sur l'approche par les compétences,
voilà.
En perspective critique.
Voilà, oui, mais bon, je vais revenir à l'instant sur ton parcours. Donc, tu as été enseignante en philosophie, hein, voilà, dans le secondaire.
Oui.
Voilà, tu as enseigné au lycée Edgar Faure, hein, de Morteau.
Oui, c'est là que j'ai commencé ma carrière.
Voilà. Tu as écrit plusieurs ouvrages de critique de méthodes pédagogiques, voilà, autour des questions de l'évaluation et de la notion de compétence, on va y revenir. Tu as connu Stéphane Hessel, en tout cas, vous avez partagé une opposition commune, un combat contre l'expulsion des enfants sans papier.
Hein, oui.
C'est ce que j'ai vu voilà, sur Internet. Et puis peut-être on va donner quelques références pour nos auditeurs qui nous écouteraient de tes ouvrages. Alors il y avait « Connaître et agir, paysage et situation », la découverte en 2006. « Plus jamais seul, le phénomène du téléphone portable », ça c'est très intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure. « Éloge du conflit », la découverte aussi. Alors l'éloge du téléphone portable, c'était Bayard, hein, 2006.
Ah, c'était pas l'éloge.
Pardon.
Oui, pardon. Plutôt la critique.
Et voilà, plus jamais seul le phénomène du téléphone portable. Voilà, pardon, c'était 2006 chez Bayard. Et l'éloge du conflit, voilà, la découverte, voilà. C'est pas du tout la
c'est
même chose.
C'est mieux le conflit que
voilà,
le téléphone.
Voilà, tout à fait. La chasse aux enfants, l'effet miroir de l'expulsion des sans-papiers, à la découverte en 2008. À l'école des compétences de l'éducation, à la fabrique de l'élève performant, la découverte 2010. De l'engagement dans une époque obscure, le passager clandestin en 2011, et puis la tyrannie de l'évaluation, la découverte en 2013. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non, je crois que tu as tout cité. Les premiers ouvrages ont été coécrits avec Miguel Benassayag.
D'accord.
Voilà, avec qui j'ai beaucoup écrit pendant un temps. L'éloge du conflit, c'était avec lui. Connaître et agir, c'était avec lui. L'expulsion des enfants sans papier, c'était avec lui.
D'accord.
Voilà.
Très bien. Et alors, commençons, Stéphanie. Voilà, je te laisse la parole. Oui. Angélique.
Alors Angélique Dalleret, on s'est connue il y a déjà quelques années lors de stages de préparation au concours de l'enseignement. Là, bon, voilà, sans le savoir, on était déjà au cœur du sujet. Et comme l'a dit Nathalie, effectivement, l'année dernière, tu nous as fait le grand plaisir d'accepter de participer à ce séminaire collectif sur l'éducation à la philosophie, hein, qui était organisé par par les trois directrices du programme du séminaire collectif sur l'éducation. Hein. Il y avait Céline Hervé, Nathalie Perrin et moi-même. Et là, tu nous avais fait une démonstration très intéressante, très brillante sur le fait que l'école s'intéresse davantage aux compétences qu'aux contenus disciplinaires et que cela vise d'abord, en réalité, à servir les intérêts du marché du travail. Alors, aujourd'hui, notre question, l'évaluation nous rend-elle vraiment plus performants, sera bien sûr l'occasion de réfléchir sur l'évaluation en philosophie et de manière plus générale sur notre système scolaire, mais aussi nous interroger sur cette espèce d'inflation de l'évaluation qui est omniprésente hein, dans nos sociétés. Et donc on verra au cours de l'émission que ce rapport de l'évaluation à la performance nous touche à trois niveaux. Hein, l'enseignement, ben pour nous qui nous intéresse plus particulièrement l'enseignement de la philosophie, l'école, mais aussi la société. Alors pour préparer cette émission, on s'est davantage appuyé sur deux de tes nombreux ouvrages justement. D'abord « La tyrannie de l'évaluation ». Paru en 2013 aux éditions La Découverte, hein, dans lequel tu analyses ce phénomène d'augmentation de l'évaluation à l'école, mais aussi dans nos sociétés, et que tu mets en relation avec un désir d'efficacité, de performance, et paradoxalement semble échouer, justement. Et un second livre, titre évocateur, hein, « À l'école des compétences, de l'éducation à la fabrique de l'élève performant », publié également aux éditions La Découverte en 2010. Et là, évidemment, ce sera l'occasion d'interroger le rôle de l'école en se demandant précisément ce que veut dire enseigner, évaluer, dans quel but. Alors, j'aimerais quand même dire, donner un propos général hein, sur tes livres, c'est que ce qu'on retrouve, c'est une analyse d'abord philosophique, hein, vraiment un regard philosophique, mais qui s'appuie sur une documentation extrêmement précise. Hein, tu as vraiment fait un énorme travail de recherche en sciences de l'éducation, sur l'histoire de nos institutions, et tu les relies à des données politiques et économiques. Alors voilà, je trouve ça assez impressionnant parce que tu arrives à avoir du recul et un œil philosophique pour nous alerter sur les dérives de tout un système. Et cela, je tiens à le préciser hein, pour nos auditeurs, dans un style tout à fait accessible. Voilà, alors avant de rentrer plus précisément dans toutes ces questions, j'aimerais te demander, Angélique Dalleret, d'où te vient cet intérêt vraiment récurrent au cours de ta carrière, de tes recherches, hein, pour les questions de l'évaluation. Voilà.
Merci pour cette présentation. D'abord, la question de l'évaluation, forcément, c'est quelque chose qui préoccupe un enseignant. Voilà. C'est-à-dire que nécessairement, il se pose la question de savoir dans quelle mesure cette évaluation qu'il doit donner est juste, dans quelle mesure elle reflète véritablement les progrès d'un élève, son niveau. Mais il se demande aussi éventuellement si cette évaluation est utile. Alors, du coup, ça pose aussi la question de savoir utile à quoi ? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est utile à ses progrès ? Ou est-ce que finalement, il n'y a pas une utilité derrière qui n'est pas que le progrès de l'élève, mais qui est justement son employabilité sur le marché du travail et qui fait que l'évaluation n'est pas d'abord pour lui, mais elle est d'abord pour des intérêts qui le dépassent et qui entrent en contradiction avec les siens propres. Donc ça, de toute façon, c'est une question qui préoccupe tous les professeurs et toutes les deux, j'imagine que comme l'ensemble des professeurs, c'est-à-dire que voilà, c'est une question qui est lancinante. Après, la chose qui a fait que j'ai commencé à écrire sur l'évaluation et d'abord sur les compétences, plus précisément, c'est parce que je me suis rendu compte dans le cadre d'une formation à l'éducation spécialisée que je faisais, parce que j'allais être nommée sur un poste spécifique, que l'approche par compétence, c'est-à-dire l'évaluation des compétences, était en train de prendre le pas sur l'évaluation, sur un autre type d'évaluation qui se traduit notamment par la note, mais c'est pas, y a d'autres éléments que le fait qu'elle soit notée, cette forme d'évaluation. Il y a aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, Stéphanie, le fait que ce soit une évaluation qui est basée sur les savoirs. Et qui est dont l'horizon est celui des disciplines, de disciplines qui sont constituées historiquement, voilà. Donc ce passage d'une évaluation notée sur la base des savoirs à une évaluation par compétences m'a effectivement étonnée. Et quand j'ai commencé à enquêter pour essayer de comprendre de quoi il s'agissait, je me suis rendu compte qu'en fait il s'agissait de quelque chose de lourd. C'est-à-dire, il s'agissait véritablement d'un changement de paradigme qui ne concernait pas que l'évaluation d'ailleurs, mais qui concernait également les programmes eux-mêmes, les programmes d'enseignement qui commençaient à être des programmes de compétences, que ce soit dans le premier, dans le second degré, mais aussi à l'université et dans le monde entier, à vrai dire. Et puis que ça ne concernait pas que l'école, mais que ça concernait aussi l'évaluation sur le marché du travail et dans le cadre du métier, de l'emploi. Donc ça, c'est la deuxième raison qui a fait que je me suis lancée là-dedans. Et au départ, ça a été vraiment une enquête sur l'école, sur les compétences à l'école. Mmh. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était quelque chose de plus large, en fait, qui touchait aussi le monde du travail et aussi finalement le monde des politiques publiques, je me suis dit qu'il fallait prolonger ce travail dans quelque chose de plus large, donc que j'ai appelé ensuite tyrannie de l'évaluation, où je m'intéresse vraiment à tous les aspects de l'évaluation et pas seulement celui de l'école.
Alors je me permets là de lire, parce que j'ai consulté pour préparer l'émission, un article qui s'appelle « L'école des compétences en sortir » que tu as écrit dans Éco-Rêve en 2013. Et je lis les premières lignes de ton article. « L'école n'échappe pas à son temps. Elle a beau être, comme beaucoup s'en plaignent, en retard sur son temps, inadaptée aux jeunes d'aujourd'hui ainsi qu'aux exigences du monde du travail. Ceci ne change rien au fait que l'école soit, même si de façon inadaptée, impactée par les changements sociaux entraînés par le mode de production actuel. Cet article, j'y reviendrai, mais là, d'emblée, dans ces premières lignes, tu montres, tu fais écho à des questions que j'ai rencontrées, notamment en travaillant autour de Derrida et de ce grand mouvement du greffe, autour de la défense, de l'enseignement, de la philosophie, précisément, où on se rend compte que les programmes ne sont plus au service, alors on pourrait dire de manière classique, essayer de... qu'est-ce que ça voulait dire éduquer ? Enfin, c'était aussi essayer de mettre en place une conscience de citoyen à travers le savoir. Ça pourrait être une sorte d'esprit des Lumières, c'est-à-dire plus on connaît, plus on peut se positionner, plus on peut avoir un esprit critique, etc. etc. Et avec la question que tu soulèves des compétences, on voit bien en fait que l'école répond à des commandes qui sont des commandes de marché. Tout simplement. Donc dans cet article-là, je rappelle qu'il est disponible sur Cairn, l'école des compétences en sortir, point d'interrogation, Angélique Delray, revient un petit peu sur cette relation de l'enseignement et du système capitaliste. Voilà. Stéphanie, tu voulais, on va peut-être commencer un petit peu reprendre un petit peu la question de la performance. En tout cas, moi, je peux la reprendre,
oui,
si tu veux.
Oui, vas-y, sur la performance. Et puis,
Voilà, parce que, bon, on rappelle que le titre de cette émission, c'est « L'évaluation nous rend-elle vraiment plus performants ?» Alors vraiment, cette question de la performance, quand on va chercher un petit peu le terme, c'est l'anglais « to perform » qui signifie « réaliser » et qui est issu de l'ancien français « performer », qui veut dire « parfaire », et qui vient aussi de par fournir, c'est-à-dire de fournir. Donc, en tout cas, quand on regarde ce terme de performance, il s'agit de fournir un résultat, un résultat qui va être chiffré et obtenu dans un esprit de compétition, par exemple, la performance d'un cheval ou d'un athlète. Bon. Alors, c'est intéressant de réfléchir un petit peu au sens qu'a pris ce terme, en opposition notamment sur le plan artistique, parce que qu'est-ce que c'est que la de la performance art, hein, l'art performant, de ce courant des années 70, qui consiste au contraire à présenter l'œuvre en cours de réalisation, notamment lorsque l'artiste peut utiliser son corps, hein, dans le body art. Donc il y a quelque chose de la performance là. Et alors toi, évidemment, tu remets en question cette idée de la performance, c'est-à-dire le quantifiable, hein, qu'est-ce qu'on leur transmet et pourquoi il faut leur transmettre ça et pas autre chose, en opposition à précisément à une performance qui serait d'un devenir de soi, hein, d'un travail sur soi-même, voilà, tel que peut le montrer l'artiste. Mais on y répond dans deux petites secondes avec Angélique Delray.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Voilà, on est revenu avec Angélique. Alors, tu vois un petit peu cette question de la performance, c'est-à-dire que toi, tu remets en question une manière de vouloir performer à l'école, en opposition à un autre peut-être type de performance, hein, la performance artistique, qui, elle, suppose au contraire un travail sur soi, une évolution, un devenir, ce que ne permet plus, je crois, l'école. Enfin, sauf... en tout cas, l'école de la performance ne permet plus ça. Alors, qu'est-ce que c'est pour toi que la performance, finalement, telle que tu la découvres dans ton travail et que tu le conceptualises ?
Alors, moi, j'ai abordé cette notion de performance à partir du sens qui lui était donné dans le système. Oui. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait donner un autre sens à la performance que le sens idéologique,
oui,
dominant.
Tout à fait. Oui, oui.
Cela dit, je trouve ça effectivement très intéressant de réfléchir au double sens et à la possibilité d'un autre sens, d'autant plus que ça me fait penser justement que finalement, une des forces, on va dire, du système néolibéral, c'est la récupération. Mm. La récupération de concepts qui n'avaient pas été pensés dans ce sens-là, mais donc la récupération dans un sens économiciste, on va dire. Mm. Et là, on voit bien que dans cette notion de performance telle qu'on peut la penser effectivement dans l'idée d'un travail sur soi.
Oui, voilà. Tout à fait.
Quelque chose est récupéré.
Ouais.
C'est bien, c'est cette idée que en fait on peut toujours faire mieux.
Ouais.
On n'est jamais au top.
Ouais.
C'est jamais bien. C'est jamais assez bien. On peut se dépasser. On peut non seulement faire mieux que les autres, mais on peut faire mieux que soi-même.
Tout à fait.
Donc qui est un discours qui va être mis au service de la flexibilité dans le travail, c'est-à-dire que voilà, je ne suis plus sur un poste maintenant garanti par mon diplôme et par ma qualification, je suis sur un emploi et je dois faire montre en permanence ma performance pour justement qu'on me maintienne dans cet emploi.
Tout à fait. Alors ce qui est intéressant dans ton concept, c'est que vraiment aux premières loges, il y a la question de la compétition. Alors moi, je trouve ça très intéressant parce que la compétition n'est pas l'émulation. Je crois que ce qui peut se passer à l'école, et dans, je pourrais dire dans tous les lieux d'enseignement, ça pourrait être une émulation, c'est-à-dire faire monter entre les élèves et entre les élèves et le professeur une espèce, non pas de compétition ou d'ambition vers une espèce de chemin unique de connaissances et de savoir avec précisément du quantitatif à la clé, mais plutôt essayer peut-être de remettre au centre du savoir la question du plaisir. Alors évidemment, c'est la libido sciendi des Lumières. Mais il y a pour moi une différence à faire entre la compétition et l'émulation. Je crois qu'aujourd'hui, on a perdu la question de l'émulation, qui supposerait peut-être une toute autre pédagogie, d'ailleurs, qu'on met pas forcément en place, d'ailleurs. Hein,
C'est très intéressant ce que tu dis, l'émulation, au sens où elle nous pousse effectivement à nous dépasser, mais nous dépasser à partir de nous-mêmes.
Tout à fait.
C'est-à-dire,
absolument,
pas nous dépasser sur la base d'un résultat qui est imposé.
Tout à fait, qui est extérieur à nous-mêmes.
Qui nous est extérieur, qui est imposé, qui est formaté pour être le même partout, et qui nous instabilise psychologiquement, c'est-à-dire dans l'idée qu'on n'est jamais ce qu'il faudrait être, en fait. Hein, c'est-à-dire c'est cette idée que, voilà, et on est à ce moment-là tourné tout le temps vers l'extérieur, c'est-à-dire c'est le regard extérieur
évaluatif qui va nous dire si on est ce qu'il faut être.
Tout à fait.
Alors que dans l'idée d'une performance au sens d'un autodépassement de soi, cet autodépassement, il est ancré en soi-même.
Tout à fait. C'est vraiment pour revenir un petit peu, toujours déconstruire de toutes ces définitions-là, on était sur la question de la performance, on était sur la question du parfaire. Mais qu'est-ce que je parfais ? C'est-à-dire, est-ce que c'est exactement ce que tu dis ? Est-ce que c'est un parfaire qui est transcendant, hein, qui est extérieur et donc qui oblige l'élève à rentrer dans des cases sous peine précisément de ne pas être parfait au niveau du système, mais la perfection ou la recherche d'un perfectionnement ou d'une perfectibilité, pour reprendre les termes de Rousseau, qui serait propre à l'être humain, cette perfectibilité, la véritable perfectibilité, elle me regarde moi, c'est-à-dire en fait, presque éduquer, c'est partir à la recherche de soi-même. Et en fait, dans ton concept de performance, tu montres qu'il n'est plus question de cela, si même ça n'a jamais été question d'ailleurs dans l'école. Enfin,
tout à fait. Oui, dans la pédagogie nouvelle, ouais. dans le courant de la pédagogie nouvelle, il a été question de ça en permanence. Oui, oui. Hein, Freinet, ouais. Etc., Montessori, enfin tout ce courant-là qui continue à exister d'ailleurs aujourd'hui.
Oui,
hein,
oui,
il n'est pas
oui.
mort. Hein.
Oui.
Mais compris en dehors de l'étiquette, il est effectivement dans cette recherche-là, mais on peut dire que cette tendance-là a été récupérée par le néolibéralisme dans une perspective tout autre, qui nous rend au contraire esclaves du regard extérieur. C'est-à-dire un petit peu dans la mouvance de ce que Michel Foucault appelait le pouvoir disciplinaire, qui implique que on rende visible les performances des individus et que ce soit justement par cette visibilité-là, grâce à cette visibilité-là, qu'on va les normaliser, les amener à s'accorder à ce que l'on veut qu'ils soient.
C'est c'est un peu le modèle de l'auto-entrepreneur hein, que tu développes par ailleurs hein, dans tes écrits.
Hein. Tout à fait. Qui vient également de Michel Foucault, hein, de naissance de la biopolitique.
Absolument.
Un de ses cours au Collège de France.
Donc on voit bien que la question, enfin le concept de performance, on travaille cette chose qu'on appelle l'ambition. Moi, quand j'en parle avec mes élèves, je dis, vous savez. Mes collègues depuis probablement le collège vous disent qu'avoir de l'ambition c'est très bien, mais en fait l'ambition, notamment pour Épicure, c'est un des désirs vains, non naturels, non nécessaires, qu'il ne s'agit absolument pas de regarder si on veut rester libre, indépendant. Bon, Stéphanie, j'ai trop parlé, mais très important ce concept de performance.
Oui, mais à relier. Alors, moi, j'essayais de mener une réflexion aussi à partir de nos pratiques d'enseignants. Et c'est vrai qu'on a eu la réforme Blanquer en 2019. Et on est passé aussi à un autre mode d'évaluation, qui est le contrôle continu. Et je pense que ça a changé beaucoup de choses. Alors, on est encore en phase, je pense, d'observation de toutes ces transformations et on les subit plutôt qu'autre chose. Effectivement, déjà en philosophie, on a toujours ce grand problème de la notation en philosophie. On sait très bien qu'il y a une notation plus qualitative que quantitative. Voilà. Et on sait aussi qu'on a besoin de faire des contrôles réguliers, de les faire travailler, mais c'est de plus en plus difficile. Notre manière en tant qu'enseignant, et ça dans toutes les disciplines, puisque l'évaluation est devenue contrôle continu, et contrôle continu pour le bac et en même temps une notation qui compte pour Parcoursup, donc pour leur avenir, qui est vraiment décisive, cette notation, paradoxalement, on nous demande de la faire de manière bienveillante et en même temps, les élèves sont de plus en plus stressés. Donc, il y a vraiment des changements qui se font par rapport à ça. Et voilà, ce qui se joue, c'est la question de qu'est-ce que l'évaluation ? Normalement, l'évaluation, comme on l'a déjà un peu dit, c'est quelque chose qui permet à l'élève de savoir où il en est et de pouvoir, du coup, progresser, savoir s'il a compris, pas compris. Là, on a l'impression que c'est pas une évaluation qui mesure un travail dans son processus, mais qui ne mesure qu'un résultat. Un résultat qui, d'ailleurs, est décisif hein, pour leur avenir, donc d'autant plus stressant. Hein, et où est justement la possibilité de s'améliorer, d'apprendre avec ce nouveau type d'évaluation. Est-ce que au lieu d'être une évaluation d'encouragement, justement, qui serait normalement susceptible de produire une forme d'émulation et d'envie d'en savoir plus, est-ce que ce n'est pas juste une mesure sanction et dans quelle mesure, déjà, ces changements sont à relier à ce qu'on assiste, à relier à ce que tu dis sur la performance de l'individu qui paradoxalement est au service du marché du travail et non pas au service d'une progression individuelle. Voilà, donc finalement, avec ces nouvelles manières d'évaluer, donc il y a plusieurs questions, mais cette espèce d'évaluation permanente, en fait, ils sont toujours sous le feu de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue finalement qu'est-ce qu'on évalue Est-ce que c'est une performance, au sens de l'élève fait une performance, ou est-ce que le fait d'évaluer les rend eux-mêmes plus performants, les fait progresser, et puis performants en quoi Vaste sujet.
Il y a beaucoup de questions.
Oui, pardon.
Oui, la question de savoir qu'est-ce qu'on évalue, c'est effectivement une question très importante. Et puis, derrière cette question, il y a la question de savoir pour qui on évalue. Enfin, c'est encore, encore une fois la question que je disais un peu lancinante pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire, là, on sent bien que dans ce paysage idéologique que tu décrivais tout de suite, il y a vraiment une contradiction dans laquelle nous sommes pris. Une contradiction qui ne se dit pas, mais qui nous saisit. C'est-à-dire que d'un côté, on va nous demander de produire du résultat et d'évaluer du résultat. C'est-à-dire que l'évaluation de la performance, c'est ça, c'est vraiment formuler un résultat sans se préoccuper de la manière de l'atteindre. C'est ça la performance en fait. C'est-à-dire tout ce qui compte finalement, c'est le résultat. La manière dont l'individu s'y est pris pour l'atteindre, on s'en fiche. C'est pas et le problème. On s'en fiche de plus en plus en fait. Vraiment. Donc d'où ça vient, comment ça a été possible, quelle formation il a fallu mettre en place pour ça, quelle discipline qu'on appelle maintenant ressources dans l'approche par les compétences, on a dû mobiliser pour mettre en place, pour rendre possible cette performance. Tout ça, c'est de la cuisine intérieure, on s'en fiche complètement. Ce qu'on veut, c'est effectivement du résultat. Et d'un autre côté, on va avoir ce discours qui, de plus en plus, est un discours institutionnel, un discours inscrit dans la loi à l'éducation nationale et même à l'université, qui est qu'il faut être de plus en plus bienveillant et donc se préoccuper d'une évaluation formative, c'est-à-dire une évaluation qui soit utile pour que l'élève fasse des progrès. Donc on fait semblant, cette fois-ci, de se préoccuper du processus d'apprentissage. Alors qu'en fait, ce qui compte, ça, c'est seulement le résultat. Donc, c'est cette espèce d'ambiguïté, en fait, dans laquelle on sent bien qu'on est pris. Tantôt, on va nous dire, mais ce qui compte, c'est que l'élève apprenne. Et puis, tantôt, on va nous faire sentir que ce qui compte, c'est seulement le résultat. C'est quelque chose dans quoi on ne peut pas se positionner, on ne peut pas se sentir bien, c'est-à-dire on est sans cesse en manque de quelque chose, quoi. On est soit en manque de bienveillance, soit en manque de résultat. Mais enfin, dans tous les cas, on est en manque de quelque chose. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui fait la difficulté de l'évaluation aujourd'hui.
Oui, puis cette injonction à la bienveillance, comme si les enseignants avant n'étaient pas bienveillants. Enfin, je veux dire, ça ne veut plus rien dire, en fait, le mot de bienveillance, tellement il est utilisé, je pense.
Oui, et à mauvais escient. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau que tu as demandé que l'on passe, Angélique. Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Et puis on se retrouve après pour la seconde partie de notre émission. No dark sarcasm.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Voilà, nous sommes revenus. Philosophie au présent, il est 16h31 avec Angélique Delray aujourd'hui pour une émission dont nous rappelons le titre « L'évaluation nous rend-elle vraiment plus performants ?» Alors Angélique, on vient d'écouter une musique que tu as choisie, Pink Floyd, Another Brick in the Wall. La personne qui ne connaît pas cette musique, bon, je ne sais pas sur quelle planète elle était. On voulait te demander pourquoi tu l'avais choisie, cette musique.
Bah, étant donné que je fais ce métier d'être d'enseigner, et aussi d'enseigner aux enseignants.
Ouais.
Je trouve que c'est bien de pouvoir se demander assez régulièrement si tout ça, c'est pas another brick in the wall.
Ouais.
Je pense que c'est un métier qui implique une remise en question perpétuelle.
Ouais, tout à fait.
Voilà, pour éviter de faire des bêtises.
Tout à fait. Est-ce que c'est un mur qu'on construit ou qu'on déconstruit ? C'est
exactement
ça le problème. Mais on fait un peu les deux, quoi.
C'est ça.
Stéphanie, je te laisse la parole pour cette seconde partie d'émission qui est la question de l'évaluation généralisée de nos sociétés.
Voilà, donc étendre un petit peu la problématique sur évidemment des questions d'économie et de politique. Alors c'est vrai que derrière cette inflation de l'évaluation, cette inflation ne touche pas que l'école, hein, on en fait au quotidien l'expérience avec nos téléphones toute la journée, chaque fois qu'on fait des courses, quand on a des échanges téléphoniques, quand on commande un taxi, hein, on nous somme de faire une évaluation, hein, donc on peut se demander, hein, quel type de société on est en train de se construire avec cette folie évaluation, comme l'appelle le psychanalyste Roland Gori. Hein, il a écrit un livre avec Abel Hausserre et Marie-Jean Sauré, La folie évaluation, les nouvelles fabriques de la servitude, que tu cites d'ailleurs dans ton ouvrage. Et d'ailleurs, c'est pas le seul, hein, Barbara Cassin aussi a écrit un livre Derrière les grilles, sortons du tout évaluation. Hein, et tu relis ça justement à une politique générale au service de l'économie qui vise à conforter certains pouvoirs, en particulier les beaux pouvoirs, les biopouvoirs, pardon. Donc référence à Foucault encore. Dans ton livre « La tyrannie de l'évaluation », hein, tu fais référence dans un chapitre nommé le panoptique, hein, tu fais référence au panopticon de Jérémy Bentham, qui est donc un dispositif architectural pour surveiller des cellules de prison, des chambres qu'on peut trouver, enfin, à l'hôpital, de manière donc d'une surveillance optimale, sans même avoir besoin de surveillants. Et tu le compares au système de statistiques modernes, et tu t'appuies là-dessus justement pour décrire l'évaluation non pas comme un outil nous permettant de nous améliorer, mais au contraire d'une servitude volontaire. Hein, il y a des passages, tu insistes sur les normes, et d'ailleurs je crois qu'on ne l'a pas dit, mais tu as aussi enseigné dans des établissements de soins, et je pense que tu es particulièrement sensible à la question des normes, hein, et par exemple page 73, tu dis « en s'appuyant sur des normes, contraintes intérieures plutôt que sur des lois, contraintes extérieures, les disciplines produisent de nouveaux types de servitudes volontaires qui, s'ajoutant aux formes déjà existantes, la religion, les jeux, etc., est mieux adaptée au capitalisme ainsi qu'à l'état administratif naissant en ce qu'elle correspond à l'invention des technologies positives du pouvoir. » Alors, voilà, donc on se retrouve avec une généralisation au service d'un certain pouvoir, généralisation de l'évaluation. Alors, que faire par rapport à cette évaluation et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce rapport justement entre l'évaluation et la question du biopouvoir et comment justement un jeune peut s'en sortir au sein de toutes ces évaluations. Voilà, qu'est-ce que...
Alors, il y a encore beaucoup de questions. dans la citation que tu as faite, je parle des disciplines. En fait, je fais référence à un concept que Foucault a créé, le concept de pouvoir disciplinaire. Donc en fait, il dit que alors que se met en place la société moderne, donc société qu'on associe souvent à une société de liberté, puisque c'est celle qui va reconnaître la liberté de chacun et qui va mettre fin au droit du sang, en réalité se met en place une autre forme de pouvoir qui va enfler progressivement à travers l'histoire, qui est un pouvoir qui repose sur la mise en visibilité des individus et également sur ce qu'il appelle un art du corps humain qui ne vise pas seulement, nous dit-il dans un livre fondateur de cette analyse qui s'appelle « Surveiller et punir », la croissance de ses habiletés, ni non plus l'alourdissement de sa sujétion, c'est-à-dire de sa soumission, mais la formation d'un rapport qui, dans le même mécanisme, le rend d'autant plus obéissant qu'il est plus utile, et inversement. Donc c'est ce qu'il dit, en fait. C'est une société qui va chercher à rendre les individus dociles et utiles, d'autant plus dociles qu'ils sont utiles, d'autant plus utiles qu'ils sont dociles. C'est-à-dire que la docilité, bien sûr, le pouvoir a mis en place de la docilité depuis qu'il existe, et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le pouvoir a cherché aussi à rendre les individus utiles à quelque chose, et ça, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais le pouvoir disciplinaire, c'est un pouvoir qui va créer une espèce d'économie entre les deux, rendre d'autant plus utile qu'on est docile et d'autant plus docile qu'on est utile. Et pour y arriver... Eh bien, comment le pouvoir va s'y prendre ? C'est effectivement l'image de l'architecture de Jeremy Bentham qui va lui servir de fil conducteur, qu'il appelle donc le panoptique. Elle va créer une espèce de panoptique, c'est-à-dire qu'en rendant les individus visibles, elle va permettre justement de faire en sorte que les individus aient de moins en moins besoin de surveillance et... que malgré tout, ils rentrent dans la norme par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se normalisent. Comme ils pensent qu'ils sont potentiellement surveillés, alors ils vont obéir, hein, ils vont d'autant mieux obéir, sans qu'on ait besoin nécessairement de les surveiller. Et là, je vais citer une autre citation, parce que je trouve qu'elle est vraiment importante pour comprendre cette analyse. Il dit « Le pouvoir disciplinaire s'exerce en se rendant invisible ». En revanche, il impose à ceux qu'il soumet un principe de visibilité obligatoire. C'est-à-dire que de plus en plus, on ne sait pas ce que le pouvoir demande aux individus. Qu'est-ce qu'on demande aux élèves exactement ? On le sait de moins en moins, en fait. Par contre, ce qu'on demande, c'est de plus en plus de visibilité. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, à travers tous ces contrôles continus, hein, c'est de la production d'évaluations permanentes. Pareil, l'évaluation du système éducatif, l'évaluation en 6e, l'évaluation en CM2, l'évaluation en CE2, l'évaluation en CM1, l'évaluation, bon, etc. On produit du chiffre, on rend visible les résultats de l'école, la performance de l'école, sans savoir ou en sachant de moins en moins finalement ce que l'école veut véritablement transmettre ou la manière dont elle veut que les élèves apprennent, hein, c'est-à-dire le processus, on en sait de moins en moins, mais par contre, on est de plus en plus, on produit davantage, de plus en plus de chiffres et de visibilité. Donc, je termine la citation, dans la discipline, ce sont les sujets qui ont à être vus, leur éclairage assure l'emprise du pouvoir qui s'exerce sur eux. C'est le fait d'être vu sans cesse, de pouvoir toujours être vu. C'est-à-dire que là, on voit bien que le contrôle continu, c'est cette idée aussi, à la limite, l'évaluation, quand elle, maintenant, dans son injonction au professeur, c'est ça. C'est-à-dire, il faut que vous soyez sans cesse au courant de là où en est votre élève, de là où en est chacun de vos élèves. Et donc, chaque élève sait que potentiellement, il peut être vu à chaque instant dans ce qu'il fait. Qui maintient dans son assujettissement l'individu. Donc c'est le fait d'être vu sans cesse, de pouvoir toujours être vu, qui maintient dans son assujettissement l'individu disciplinaire. Et donc cette production de visibilité, effectivement, hein, c'est quelque chose qui aujourd'hui a pris une proportion absolument impressionnante, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit au niveau de la société elle-même. C'est-à-dire que l'évaluation des politiques publiques, elle est basée sur cette idée que désormais, on ne va financer que ce qui se donne à voir comme étant performant. Voilà. Donc c'est une... D'ailleurs, je pense que la loi organique sur les lois de finances qui a été... qui a été voté en 2001, qui a complètement changé les finances des politiques publiques, ça a été un moment important, on va dire, dans ce pouvoir-là, puisque maintenant, c'est à travers des projets que les actions publiques sont financées, et ces projets sont eux-mêmes... soumis à l'évaluation de la performance sur donc critères de performance et éventuellement si la performance n'est pas montrée par ceux qui ont été financés dans le cadre de ces projets qu'ils ont demandé, eh bien le financement sera revu et donc l'action peut être supprimée du jour au lendemain.
Oui, avec un effet pervers où tu parles de visibilité, mais en fait souvent il y a des projets, c'est juste comme on dit, juste pour la vitrine, quoi. c'est creux. En fait, on montre, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Voilà, c'est le problème.
Mais tout à fait, parce que ce qui intéresse, c'est uniquement le résultat visible. Le reste, effectivement, c'est de moins en moins intéressant.
Le processus, c'est... oui.
Alors, on a encore quelques petites minutes avant un prochain petit jingle qui va passer. Je voudrais citer quelques phrases de ton article « L'école des compétences en sortir ?» point d'interrogation dans Éco-Rêve, ou Rêve, je ne sais pas comment on prononce, paru en 2013, qui éclaire un peu tes propos. Angélique, peu importe à cet égard que l'on critique tel ou tel système éducatif pour son inadaptation au marché de l'emploi. L'important est que les réformes issues du mode néolibéral de gouverner aillent toutes dans le sens d'une soumission de l'éducation, que l'on appelle désormais plus volontiers formation, alors évidemment moi j'aime beaucoup là ce que tu as dit, à la logique d'accumulation de capital immatériel. De là les recommandations du Conseil de l'Europe et du Parlement européen sur les compétences clés pour la formation tout au long de la vie. Série de 8 compétences qui ont d'ores et déjà constitué le cadre de réformes éducatives dans divers pays membres de l'Union européenne. De là, les évaluations internationales PISA, des compétences à réussir dans la vie, là, tu cites, pour les jeunes de 15 ans, initiées et promues par l'OCDE. De là, les réformes curriculaires, les réformes des évaluations, ainsi que, plus rarement, les réformes pédagogiques selon la dite approche par les compétences. Là encore, tu montres bien que c'est tout un système, alors un système qui nous échappe, puisque là, on n'est plus au niveau des États, mais on est au niveau de l'Europe. C'est-à-dire que ce sont des politiques qui échappent complètement aux citoyens que nous sommes, d'ailleurs. Hein. Voilà, ce sont des normes qui nous sont imposées à l'échelle d'un regroupement de pays comme peut l'être l'Europe.
Oui, alors là, c'est un élément encore supplémentaire par rapport à ce que je disais tout à l'heure, donc cette logique de la performance ou cette logique de la visibilité totale de cette performance, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'éducation est pensée comme un investissement sur de la ressource. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très clairement dit à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau international. Effectivement, les recommandations que tu citais tout à l'heure, qui ont été produites en 2006 suite au sommet de Lisbonne, donc recommandations qui vont porter sur les écoles, sur les systèmes scolaires, mais qui vont porter en fait sur ce qu'on appelle aujourd'hui la formation tout au long de la vie.
Oui, tout à fait.
Sachant que l'école, l'université ne sont plus censées être en fait qu'une formation parmi d'autres.
Oui.
La formation qu'on dit initiale. Et l'autre formation étant la formation continue, la formation dans le cadre de l'emploi, et puis la formation qu'on dit aussi informelle, c'est-à-dire celle que vous pouvez faire reconnaître à travers une validation des acquis de l'expérience, parce que finalement, la vie est censée aussi vous donner des compétences, et finalement, quand vous vivez, vous investissez aussi sur vos compétences. Donc, cette vision de l'école, aujourd'hui, elle est prise dans une vision plus large, qui est une vision de la vie comme formation, et de la formation comme investissement sur soi. Vision dans laquelle la question de savoir si quand je vais à l'école ou quand je me forme dans le cadre de l'entreprise, c'est moi qui ai décidé ou si c'est l'État qui investit sur moi ou si c'est l'entreprise qui investit sur moi, finalement, ça a l'air d'être une question qui ne pose pas problème. C'est-à-dire que quand moi, je décide d'investir sur mes compétences, finalement, je suis d'accord avec ce que l'État veut faire de moi et je suis d'accord avec ce que l'entreprise veut faire de moi. Il y a zéro contradiction, n'est-ce pas ? C'est-à-dire cet investissement subjectif ou objectif est conçu comme étant la même chose.
Bon.
On est dans quelque chose, effectivement, une espèce de formatage de l'éducation qui implique de la voir vraiment comme un investissement et donc comme une action économique individualiste et en même temps dans laquelle l'individu, la personne, a perdu complètement sa subjectivité.
Bon, on revient dans deux petites secondes.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Alors, on est dans cette seconde partie, la question de l'évaluation généralisée de nos sociétés. On se pose la question de... Alors, moi, une question, l'éducation est-elle évaluation ? Alors, en quoi consisterait une véritable évaluation, hein, puisque là, nos auditeurs entendent bien qu'on est en train de remettre en question, avec tout ton travail de recherche, Angélique, toutes ces questions, voilà, tout ce vocabulaire d'abord, hein, que tu travailles sur un vocabulaire. Là, tu fais un véritable travail... voilà, au sens de Nietzsche, c'est-à-dire de repérer vraiment le vocabulaire aujourd'hui qui est employé dans l'éducation. On en a fait une critique, mais on peut essayer aussi de voir, bon, finalement, éduquer, ce serait quoi une éducation qui évaluerait ? Il s'agirait d'évaluer quoi ? Bon, on sait bien qu'au temps de la Grèce classique, l'évaluation portait sur, eh bien, on essaie de vous former le mieux possible à devenir un citoyen, un être indépendant, libre, capable de penser, etc. Les Lumières, c'était voilà, la raison critique, hein, user de sa raison pour ne pas être soumis aux différents dogmes, qu'ils soient étatiques, religieux, etc. Bon, alors, cette évaluation qu'on nous demande de faire en philosophie, alors nous, en philosophie, on est encore un peu privilégiés parce que ça reste quand même la discipline qui met en question, on pourrait dire, les préjugés et les représentations. Nous travaillons sur les représentations. Donc
on résiste.
On a encore cette chance-là. Mais ça voudrait dire quoi évaluer ? Parce que dans la question de l'évaluation, c'est bien, on entend bien le terme de valeur. Or, toi, tu as mis en question dans tout ton travail de recherche des valeurs, notamment issues du capitalisme. Hein. En fait, il faut que nous répondions à des espèces de cases hein, qui nous attendent. Hein. Nous sommes prédestinés, d'une certaine manière. Mais ça serait quoi, alors, les contre-valeurs de cette éducation ?
Mais c'est vrai qu'effectivement, la question de l'évaluation, ça pose plusieurs questions. Ça pose la question de l'évaluation à l'école, hein, je veux dire.
Oui, là, oui.
Pour le coup,
oui, oui.
On est sur l'évaluation à l'école. L'évaluation à l'école, c'est déjà... Qu'est-ce qu'on évalue ? Qu'est-ce qu'il faudrait évaluer éventuellement hein ? Que faudrait-il évaluer ? Comment ? Comment est-ce qu'on évalue ? Il y avait tout à l'heure la question que posait Stéphanie, c'est-à-dire est-ce qu'il faut évaluer tout le temps ou est-ce qu'il faut des moments d'évaluation ? Est-ce qu'il faut que ce soit l'enfant qui s'évalue lui-même ? Est-ce qu'il faut que ou l'élève qui s'évalue lui-même ? Est-ce qu'il faut que nous on vienne l'évaluer de l'extérieur ? Donc il y a la question du comment. Comment est-ce qu'on évalue ? Oui. Et puis il y a la question finalement de savoir est-ce qu'il faut évaluer ou pas quoi ? Est-ce que ça a un intérêt d'évaluer ou est-ce qu'on peut laisser tomber l'évaluation et ne plus s'en préoccuper ? Donc je prétends pas donner la réponse à toutes ces questions, mais effectivement, je peux quand même dire plusieurs choses. La première, c'est que la question de savoir s'il faut évaluer, si ça a un intérêt d'évaluer, ça pose, comme tu disais, la question de la valeur. Sans doute que dans un certain sens de l'évaluation, qui n'est pas le sens institutionnel de l'évaluation, hein, mais qui s'approcherait davantage du sens spontané de l'évaluation. Oui. C'est vrai que on dit, par exemple, j'évalue avant de sauter. Enfin, on va pas sauter sans évaluer la distance.
Oui,
donc, y a bien une place pour l'évaluation dans l'action quotidienne et dans l'apprentissage plus encore. Donc, certainement qu'il ne faut pas laisser tomber l'évaluation. La question est de le rapport, finalement, de l'évaluation qu'on va mettre en place avec les demandes institutionnelles liées à l'évaluation. Donc, ça, ce rapport doit être travaillé, pour moi. Ça ne doit pas être quelque chose qui ne s'interroge pas. Quelque chose qui se fait sans interrogation. Et je suis même pour qu'on fasse ce travail avec les élèves, c'est-à-dire qu'on mette les choses sur la table avec eux, hein, qui est vraiment quelque chose qui soit pensé, qui soit construit avec eux, c'est-à-dire que ce problème-là soit travaillé avec eux. Voilà, je pense qu'ils sont assez responsables pour qu'on puisse faire ce genre de travail avec eux. Après, il y a donc la question de qu'est-ce qu'on évalue. Donc ça, c'est toute la question des programmes qui sont derrière. Moi, je pense que, pour aller très vite, hein, mais que l'évaluation par compétences, c'est quelque chose qui ne marche pas, qu'il vaut mieux rester dans le cadre des disciplines, tout en sachant qu'effectivement, dans le cadre des disciplines, on va mettre en place des critères d'évaluation sur compétences. C'est-à-dire que quand j'évalue une dissertation en philosophie, j'évalue bien sûr sur la base des connaissances que les élèves ont, mais je vais évaluer aussi des compétences, la compétence à synthétiser, à analyser, etc. etc. Donc, mais ça va rester cadré, malgré tout, par une discipline. C'est-à-dire que pour moi, évaluer des compétences dans l'abstrait, ça veut rien dire. Une compétence à réaliser un projet, s'investir dans un projet, ça veut rien dire si on s'intéresse pas au projet en soi.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà. Donc pour moi, là, il y a quelque chose de très important. Après, la question du quoi évaluer, c'est aussi quelque chose qu'on peut aborder avec eux. C'est-à-dire que c'est pas parce que on évalue dans le cadre des disciplines qu'il n'y a pas des normes. Dès lors qu'en fait on évalue, il y a forcément derrière une norme de ce qu'il faut atteindre. Et cette norme, c'est bien aussi de pouvoir l'interroger avec eux. Oui. De faire apparaître justement le normatif qui est derrière l'évaluation. Et puis pour la question du comment évaluer, je pense que là, il y a quelque chose d'important à faire sur la valeur. C'est-à-dire qu'évaluer, c'est d'abord valoriser, c'est d'abord mettre en valeur. Quand on évalue un élève, un étudiant, il faut savoir valoriser ce qu'il a fait.
Oui.
Voilà. Et il y a toujours quelque chose à valoriser.
Redonner de l'estime, hein, c'est un des premiers sens du mot valeur. C'est l'estime, la valeur de quelqu'un.
Bon. Voilà. Et ça ne veut pas dire forcément dire c'est bien, parce que là encore, on est un peu dans du comportementalisme. Quand on dit c'est bien, ça veut dire en gros, l'élève il comprend, ah d'accord, c'est ça que le prof il veut, donc je vais lui donner ce qu'il veut. Non, c'est simplement être capable de dire, ah ben là, ce que tu as fait, c'est. C'est-à-dire, on met en valeur ce qui a été fait, ce qui a été réalisé. Voilà, le travail, le progrès, le chemin qui a été parcouru. C'est-à-dire, on le met en valeur pour qu'il puisse, parce que ça ne va pas de soi. C'est-à-dire, lui, il a travaillé, mais il est dedans. Un regard extérieur qui va mettre en valeur le chemin parcouru, c'est quelque chose qui va l'aider justement à faire le point sur là où il en est pour voir un petit peu comment il pourrait progresser. Ensuite, c'est aussi interpréter, c'est-à-dire dire, voilà, bah, par rapport à ce qui est attendu, tu vois, là, on en est là... donner une interprétation qui lui permette de saisir le rapport entre ce qu'il a réalisé et puis la norme. Et à partir de là, effectivement, ce qu'on peut faire apparaître, c'est aussi la norme. Et en lui disant, éventuellement, bah, tu sais, c'est ça la norme, voilà quel est l'intérêt de la norme. Mais la norme, c'est aussi quelque chose qu'on peut questionner. Ça ne veut pas dire que c'est ton rapport à la philosophie qui est en jeu. Ça veut dire que c'est une norme qui est en jeu. Faire des dissertations, ça fait partie des attendus du système. C'est pas parce que tu n'arrives pas à faire une dissertation que tu n'aimes pas la philosophie, que tu n'es pas bon en philosophie, que, etc., etc. Donc il y a un travail qui peut être fait aussi à partir du moment où on a posé l'écart, faire apparaître la norme et pouvoir aussi la relativiser, j'ai envie de dire.
Bien sûr, bon, mais ça, malheureusement, je crois qu'il faut... Alors, ça, quand on t'entend, là, on voit bien qu'on est dans la question du dialogue. Enfin, c'est la première chose qu'il faut avoir comme rapport avec les élèves, c'est-à-dire l'objectif. Dire la vérité, ils sont très sensibles au fait qu'on leur dise la vérité, que ce soit réussi ou pas réussi, ils sont très sensibles. Je crois que la figure du prof, c'est aussi celui qui précisément peut faire prendre ce chemin de la perfectibilité, mais ça suppose un dialogue, ça suppose aussi un rapport à l'institution qui est un regard critique, notamment par rapport au programme, par rapport à ce qu'on nous demande d'enseigner. Moi, je fais partie de ces gens-là qui considèrent que la dissertation n'a pas vraiment lieu d'être. Elle est de moins en moins lieu d'être et c'est un exercice idéologique. Mais ça ne se dit pas en philosophie, mais je le pense fortement.
Non, ça ne se dit pas, mais on peut dire à l'élève, parce qu'en fait, le problème de l'évaluation, c'est qu'elle produit une identification.
Oui, tout à
voilà,
fait.
C'est-à-dire que l'élève, il a une mauvaise note en philo, ça y est, il est nul en philo, il n'aime pas la philo. En gros, c'est ça que ça veut dire.
Voilà.
Hein. Donc, défaire cette identification, lui dire, en fait, tu n'es pas nul en philo, tu as du mal à faire des dissertations. Les dissertations, savoir faire une dissertation n'a finalement pas grand-chose à faire à voir avec la philosophie. C'est quelque chose qu'on a appris au fur et à mesure de ses études. Donc, la philosophie n'est pas tellement en jeu là derrière.
Tout à fait.
Voilà.
Absolument.
La question de savoir si tu aimes, je sais pas, on a fait des débats, tu t'étais investi, ça te plaisait, etc. Est-ce que c'est pas vrai que ça te plaît? Oui, ça te plaît. Donc quel est le rapport? Il y en a aucun, d'accord? Donc faire vraiment la dissociation entre l'évaluation et le rapport de l'élève à la discipline.
Tout à fait, une schizophrénie nécessaire. Je te laisse la parole, Stéphanie. Il est 53, il va falloir que voilà, tu fasses un bon point final.
Voilà, très intéressant tout ce travail-là sur la valeur, l'évaluer, c'est valoriser, mettre en valeur. Donc ça a un lien avec la valeur. Et au contraire de cela, on voit justement cette espèce de fantasme de l'objectivité qui serait d'autant plus forte qu'elle serait chiffrée, hein, et c'est l'inflation aussi des tests aussi. Alors moi j'y vois aussi un parallèle, alors je ne sais pas si tu le fais aussi, enfin si d'ailleurs tu en as parlé, mais le parallèle aussi avec tous ces tests qui se développent dans le domaine de la psychologie. Hein, et qui tendent aussi à donner des étiquettes, comme tu le dis, pour les notes, pour les élèves. Hein, voilà, moi j'ai eu des. Enfin, tu parles de. Ça a commencé déjà avec la création du QI hein, par Binet, mais tous ces tests, j'ai des élèves qui me disent ben voilà, moi je suis tant, je suis tant, je suis tant. Non, toi. Tu es autre chose, tu n'es pas ça, c'est beaucoup plus que ça, c'est pareil avec les notes. Hein. Et il y a un espèce de fantasme scientiste hein, qui consiste à vouloir plaquer des méthodes mathématiques, des sciences exactes, des sciences dures sur les sciences humaines. Et je me demande dans quelle mesure tout ça n'est pas un danger pour les sciences humaines. Et on le voit d'ailleurs, il y a un recul de la psychanalyse, de l'intérêt pour la psychanalyse. Alors moi je le ressens, mais pas mal de mes camarades profs de philo m'ont dit la même chose, hein, avec une difficulté croissante à faire cours sur l'inconscient. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez éprouvé, mais il y a 10-15 ans, c'était vraiment mon tube, quoi. Et là, vraiment, les élèves, qui sont par ailleurs extrêmement attentifs et intéressés, ont du mal avec cette notion-là. Alors voilà, je me demande dans quelle mesure cette société du plein, de la mesure et de l'évaluation permanente surtout, se répercute pas par justement un recul des sciences humaines. Et deuxième question, plus générale, comme tu as évidemment écrit énormément de livres avec le philosophe et psychanalyste Miguel Benassayac, je me demande en fait comment se fait le dialogue entre philosophie et psychanalyse. Voilà, ça c'était mon autre petite question un peu en dehors de notre sujet principal, mais voilà, je t'ai sous la main, donc je te pose la question.
Je pense que, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis sur le recul des sciences humaines, et je suis pas la seule à être d'accord. Enfin, c'est-à-dire, c'est quelque chose que beaucoup d'observateurs constatent, y compris de l'intérieur des sciences humaines, hein, où une science humaine, par exemple une sociologie qualitative, a de plus en plus de mal à exister et à être reconnue au niveau institutionnel. On est passé des quand on regarde l'histoire des statistiques, c'est-à-dire les sciences de l'État qui ont permis à l'État de prendre la main sur la question sociale, on s'aperçoit on est passé d'une statistique purement qualitative à une statistique quasiment purement quantitative, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui la statistique qualitative ça n'existe plus. Donc il y a quelque chose de on peut pas faire autrement que de penser ce que tu dis. En revanche, je trouve que ça pose la question, et là ça nous renvoie un petit peu à la psychanalyse, à la question de savoir finalement qu'est-ce qui fait que nous désirons ça, parce que je pense qu'il y a du désir de s'identifier, justement du désir d'avoir une note. On le voit chez les élèves d'ailleurs, hein, quand on va leur dire on va arrêter de vous noter, ça va pas forcément être bien pris.
Non, parce que c'est ancré depuis la maternelle.
C'est ancré depuis la maternelle, mais il y a quelque chose aussi là-dedans qui va finalement bien s'articuler avec la psychologie humaine, hein, ouais, on va dire de manière générale, quoi. Et il y a quelqu'un qui est une psychanalyste que tu n'as pas citée tout à l'heure, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Évaluez-moi ». À l'époque où j'ai sorti mon livre sur l'évaluation, où Gori avait sorti son livre, où Barbara Cassin avait sorti son livre, qui disait je vais peut-être terminer par une citation de son livre, parce que je trouve qu'elle est vraiment super. Alors que la reconnaissance symbolique fait naître chez le sujet l'angoisse de ne pas savoir ce qu'il est dans le désir de l'autre, tout en étant agi par ce désir. L'illusion de l'évaluation est que tout de soi serait accessible, rendu visible à soi. Il y a ici l'idée folle d'un collage total, d'une coïncidence parfaite entre intérieur et extérieur, dans un désir de s'identifier totalement, sans reste, à ce que l'autre nous renvoie.
C'est très beau. Très, très beau. Eh bien, on va en terminer sur cette magnifique citation et te remercier, Angélique Dalleret, qui
Merci
est venue nous
invitation.
Voir aujourd'hui, 1er juillet 2023. L'évaluation nous rend-elle vraiment plus performants? On aurait pu faire 2 heures, mais il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on soit sérieux.
On a dû restreindre.
Ouais. On a dû restreindre parce que, ce sont des questions qui nous passionnent. On te réinvitera si tu as du temps à nous consacrer l'année prochaine.
Absolument.
Dans notre nouveau planning de philosophie au présent, partenariat du Collège international de philosophie et d'Aligre FM. Merci beaucoup à Baos Aslandag qui était là aujourd'hui à la technique, qui nous a fait tout un tas de signes pour qu'on soit hyper pro. Et on a tenu le timing, messieurs, dames. On vous retrouve avec grand plaisir. Quand est-ce qu'on se retrouve, Stéphanie? Le 8 juillet.
Le 8 juillet.
Voilà, pour notre dernière émission, avec grand plaisir. Merci beaucoup à Aligre FM et au CIPH. Merci, Stéphanie.
Merci, Nathalie Perrin. Merci Angélique Dalleret.
Merci. À très bientôt.
Merci Baos.
Merci. Au revoir. Bonne journée.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.